Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le thème du pardon, un thème qui revient tout au long de la Bible. Ainsi, durant les premières émissions, nous parlerons du pardon que Dieu accorde aux hommes. Puis nous réfléchirons sur le fait que si Dieu pardonne, il nous demande aussi de pardonner à tous ceux et celles qui nous ont offensés.
Pendant plusieurs émissions, nous avons parlé de David, qui fut roi en Israël environ 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ dans le monde.
David était un bon roi. Sous son règne, le pays d'Israël a même prospéré. Cependant, un jour, David est tombé dans le péché en commettant des actes extrêmement graves, car il n'a pas pu résister à ses passions. En effet, il a un jour vécu un adultère avec une femme mariée, Bathsheba. Puis par la suite, pour cacher ce péché gravissime, il est allé jusqu'à organiser un complot pour que le mari de Bathsheba meure.
La dernière fois, à travers la lecture de 2 psaumes, nous avons découvert que David avait trouvé auprès de Dieu le pardon. En effet, ces 2 psaumes racontent le cheminement spirituel de David, qui passa de la culpabilité à la confession pour retrouver auprès de Dieu une relation merveilleuse.
Toutefois, cette histoire du pardon suscite des questions importantes, car n'est-il pas injuste que David n'ait pas été puni? En effet, Dieu n'est-il pas juste et saint? Alors comment a-t-il pu pardonner les péchés de David, jusqu'à en oublier le mal qu'il avait commis?
Nous allons répondre à ces questions en compagnie de notre invité Jean-Marc. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Jean-Marc, selon la loi de Moïse, David aurait dû subir la peine de mort en guise de châtiment, car ses actions étaient cruelles et honteuses. Alors pourquoi s'en sort-il impuni? Pour finir, il jouit même de la faveur de Dieu. Cette réalité peut surprendre et susciter des sentiments d'injustice.
Vous avez raison, Yann. L'homme confronté au mal exige que la justice soit rendue, ce qui est juste, car ne sommes-nous pas créés à l'image de Dieu? Or, Dieu est juste. Il a le mal en horreur, et il a pour devoir de punir le pécheur. Dieu lui-même a révélé sa loi à Moïse, et cette loi devait être en vigueur à l'époque de David. Puis, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous confronte avec une triste réalité. Tous ont péché. Ces paroles se trouvent dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 3. Et quelques chapitres plus tard, nous apprenons que le salaire du péché, c'est la mort.
En fait, notre situation n'est guère plus avantageuse que celle de David.
C'est exact, Yann. Nous sommes tous pécheurs et il ne se trouve aucune exception, pas même une seule. Nos fautes, même celles qui nous paraissent petites, voire insignifiantes, restent très graves aux yeux de Dieu, du Dieu trois fois saint. Et le verdict du Dieu juste, c'est la mort. En fait, si nous mourons tous un jour, c'est simplement parce que la justice de Dieu s'accomplit.
Revenons alors à notre question. Comment Dieu qui est juste peut-il effacer nos fautes? Car David a reçu de Dieu le pardon. Cela prouve bien qu'il est possible d'être pardonné de ses péchés.
La Bible l'affirme maintes fois. Dieu est juste, mais il est aussi miséricordieux.
Et comment définir la miséricorde?
La miséricorde consiste à ne pas traiter une personne selon les actes méchants qu'elle a pu faire subir. C'est lui pardonner toutes ses fautes, sans jamais vouloir se venger du mal qu'elle a fait.
Pardonner, c'est faire preuve de miséricorde alors. Mais pour en arriver là, il faut renoncer à ce que la justice soit rendue contre ceux qui nous ont offensés. Oh, vous affirmez que Dieu est à la fois juste et miséricordieux. Comment cela peut-il être possible, puisque ces deux qualités s'opposent?
Comment réconcilier la justice de Dieu et sa miséricorde? Voilà une question fondamentale dont la réponse se trouve au cœur du message de la Bible. Dieu, dans sa justice, exige que toute faute soit punie, mais en même temps, parce qu'il est miséricordieux, il désire pardonner le pécheur.
Alors dites-nous ce que la Bible déclare face à cette énigme.
La Bible nous parle de sacrifices de substitution.
Qu'est-ce que c'est que les sacrifices de substitution?
Selon le dictionnaire, la substitution, c'est remplacer une personne ou une chose par une autre. Pour expliquer cela, prenons pour exemple les sports d'équipe, comme le foot. Si lors d'un match, un joueur se blesse, il devient alors possible de le remplacer par un autre qui jouera à sa place. De même, si un footballeur joue mal, l'entraîneur peut le remplacer par un autre joueur qui, espère-t-il, apportera une meilleure prestation. Dans ces deux cas, on parle de substitution.
Merci Jean-Marc, mais quel est le rapport avec notre sujet sur le pardon et la justice de Dieu?
La Bible explique que la justice de Dieu exige que toute personne qui pèche soit punie. Toutefois, Dieu accepte les sacrifices où un autre subit le châtiment que le malfaiteur ou le pécheur aurait mérité. Un tel acte permet à la personne coupable d'être libérée de sa condamnation et d'être pardonnée.
Revenons à l'exemple de David. Ces sacrifices de substitution existaient-ils à son époque?
Oui, bien sûr. Souvenez-vous que Dieu avait révélé à Moïse la loi divine avec toutes ses ordonnances. Et durant cette même période, Dieu avait aussi prescrit aux hommes tout un code à suivre d'offrandes et de sacrifices. Les règlements à appliquer pour réaliser ces sacrifices se trouvent dans les livres bibliques de l'Exode et du Lévitique. Parmi tous ces sacrifices et ces offrandes, les plus importants sont destinés à enlever la culpabilité des gens, à effacer leurs péchés et à les réconcilier avec Dieu. Et pour répondre à votre question, oui, ces sacrifices étaient toujours en vigueur à l'époque de David.
Et savons-nous si David a offert de tels sacrifices à cause des péchés graves qu'il a commis avec Bathsheba?
Dans le psaume 51, nous lisons « Tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi ». Le psaume 51 est un psaume de confession écrit par David après avoir commis un adultère et des meurtres. Or, ce verset cité semble affirmer que David avait l'intention d'offrir les sacrifices exigés par la loi. En offrant de tels sacrifices, David reconnaissait que son pardon reposait sur la mort d'un autre, d'un substitut. Les animaux, brûlés sur l'autel, prenaient sa place. Il subissait la peine qu'il aurait dû subir lui-même. Toutefois, en écrivant le psaume 51, David suggère qu'un autre type de sacrifice est tout aussi important pour obtenir le pardon de Dieu.
Parlez-nous en davantage.
David a écrit les paroles suivantes. « Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. »
Ce verset semble en contradiction avec ce que nous venons d'apprendre.
À première vue, oui. Mais en y réfléchissant bien, il va de pair avec ce que nous savons déjà sur les sacrifices. Ce verset déclare qu'il est inutile d'offrir un sacrifice d'animal dans l'espoir d'obtenir le pardon de Dieu si on ne regrette pas sincèrement son péché. Ces sacrifices étaient-ils devenus pour beaucoup un simple rite, un devoir à accomplir dépourvu de sens? David et d'autres auteurs bibliques l'expliquent. Dieu ne prend pas plaisir à de tels sacrifices. Ils deviennent comme nuls et totalement inefficaces. En effet, à travers ce psaume, David déclare que quiconque offre un sacrifice pour le péché doit reconnaître ses fautes, car il est primordial d'en souffrir, essentiel d'admettre ses torts et de refuser de pécher encore. Autrement dit, un sacrifice pour le péché est valable et efficace seulement si la personne qui l'offre s'humilie et se repent.
Merci Jean-Marc de nous avoir montré l'importance des sacrifices à l'époque de David. Toutefois, de nos jours, tous ces rituels enseignés dans la loi de Moïse ne sont plus pratiqués. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé?
Tout a changé avec Jésus-Christ. Les auteurs du Nouveau Testament l'affirment. Jésus est le sacrifice suprême, celui qui met fin à la nécessité d'offrir tout autre sacrifice. En fait, tous les sacrifices de l'Ancien Testament servent comme de panneaux de signalisation qui nous conduisent vers une destination unique, Jésus-Christ et sa mort sur la croix.
Pouvez-vous citer quelques textes bibliques qui développent cette idée?
Oui, notre lectrice va en lire certains. C'est dans lui la parole.
En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix.
Merci. Il existe beaucoup d'autres textes dans le Nouveau Testament qui affirment que le pardon de nos fautes est obtenu grâce au sacrifice de Jésus. En effet, c'est en mourant sur la croix que Jésus a subi à notre place la juste colère de Dieu. C'est en mourant sur la croix, en sacrifice de substitution, que la justice de Dieu a triomphé, car Jésus a été frappé pour que nous recevions la miséricorde de Dieu, que nous obtenions le pardon de nos péchés et soyons réconciliés avec Dieu. Grâce au sacrifice de Jésus, nous sommes libérés de toute condamnation et au lieu d'être destinés à la mort éternelle, nous vivrons éternellement avec le Seigneur.
Merci Jean-Marc. Mais avant de terminer notre discussion, pouvez-vous nous dire comment nous pouvons recevoir ce pardon que Jésus offre sur la croix?
Pour vous répondre, je voudrais vous encourager à suivre la même démarche que David. Tout d'abord, implorez la miséricorde de Dieu. Croyez en Jésus et en son sacrifice. Demandez à Dieu de vous donner la foi. Avoir la foi, c'est recevoir la conviction que Dieu pardonne, que sur la croix, il a tout accompli pour nous sauver. Ensuite, tout comme David s'est humilié devant Dieu et a recherché son pardon, reconnaissez votre impuissance. Acceptez que seul Jésus peut venir à votre aide. Avoir l'esprit contrit, c'est regretter profondément le mal fait. C'est éprouver le vif désir de mieux faire, de changer de comportement, de rechercher l'aide de Dieu. La croix de Jésus-Christ nous appelle à une démarche de foi et de repentance.
Merci Jean-Marc d'avoir répondu à ces questions si importantes.
La prochaine fois, nous continuerons notre série sur le pardon et nous nous pencherons davantage sur les paroles de Jésus à ce sujet.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.